Yo les trashers! Bien ancré depuis près de 10 ans, YouTube a totalement changé la vie et les habitudes de millions de personnes. D'année en année, le site grappille du terrain sur ce qu'on appelle maintenant les vieux médias, la TV et la radio.
Est-ce que cette intro était correcte?
C'est une nouvelle façon d'entrer en relation avec les gens.
Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter.
Déjà, tu vas me parler sur un autre ton, gros ton.
Sur cette chaîne, je vous apprendrai et vous ferai découvrir plein de concepts. Ça peut être de la philosophie, de la politique, des discussions.
Comme on est des youtubeurs, qu'on ne travaille pas sur le même média, il y a une sorte de petite condescendance et une sorte de suffisance qui met extrêmement mal à l'aise également dans ce reportage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez symptomatique, malheureusement, du traitement de l'information aujourd'hui à la télé.
Je trouvais ça étonnant que Léa Salamé soit aussi déphasée sur ce sujet alors qu'elle a que 5 ans de plus que moi.
On est complètement largués. On est vieux, quoi.
Donc restez connectés, normalement on se revoit très très bientôt.
Connaissez-vous Michou et Squeezie, peut-être un peu plus? Cyprien ou Norman sont-ils des noms familiers à vos oreilles? S'ils ne le sont pas encore, c'est que vous ne vivez pas sur la planète YouTube, voire sur votre planète tout court, ou que vous ne suivez pas toujours l'activité de vos adolescents. Michou, Squeezie, Cyprien et Norman sont des YouTubeurs, et certains d'entre eux ont franchi la barre des 13 millions d'abonnés. En juin 2019, 300 chaînes YouTube françaises ont même franchi le seuil du million d'abonnés, alors qu'elles étaient seulement 10 en 2014, et les vidéos d'humour totalisaient à elles seuls plus de 19 milliards de vues en France. Longtemps méprisés, les youtubeurs sont aujourd'hui courtisés par les médias traditionnels, télé et radio en tête, qui cherchent à collaborer avec ces stars du web ou qui s'inspirent de leur démarche. YouTube peut-il servir de modèle aux des médias traditionnels? Les youtubeurs sont-ils solubles dans le paysage audiovisuel français? On se pose la question à l'occasion ce week-end de la 4e édition du festival le plus important de la création diffusée sur Internet, le Frames Web Vidéo Festival, qui se tient à Avignon aujourd'hui et demain. Et pour parler de ce sujet, nous avons deux invités. Vincent Manilev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur en 2018 d'un livre consacré aux youtubeurs et à YouTube, YouTube derrière les écrans, ses artistes, ses héros, ses escrocs, publié aux éditions Le Mieux. Et puis avec vous se trouve Florent Latrive, qu'à France Culture on connaît bien. Bonjour Florent.
Bonjour Caroline.
On vous connaît bien puisque vous êtes tout simplement le délégué du numérique sur France Culture, le délégué au numérique de France Culture.
Exactement.
On le dit dans les deux sens, ça revient au même. Alors, on s'est posé la question avec Stéphanie Villeneuve, qui m'aide chaque semaine à préparer cette fabrique médiatique. On s'est posé la question de base en pensant, tiens, on dit fabrique médiatique, donc dans médiatique, il y a média. Si on fait une émission sur YouTube, est-ce que c'est qu'on considère la plateforme YouTube comme un média? Eh bien, je vais vous poser cette question tout simplement. On a tenté d'y répondre par oui, c'est bien pour ça que vous vous retrouvez tous les deux là. Mais Vincent Manilev, est-ce que YouTube est un média?
Oui, pour moi, c'est une évidence maintenant, puisqu'on parle d'une plateforme où sont diffusés des contenus accessibles à tout le monde, via Internet, évidemment. La seule différence que je donnerais là-dessus, c'est que YouTube, c'est pas des rédacteurs en chef, des chargés de production, de programmation, qui choisissent les contenus. N'importe qui peut poster des contenus sur YouTube à condition d'avoir un compte, et normalement 13 ans minimum. Mais là, c'est un algorithme qui choisit, de façon parfois un peu polémique, quels sont les contenus qui sont mis en avant, qui fait un peu votre grille de programme, si on veut un peu comparer. Et pour moi, en gros, c'est un peu la seule différence que je trouve, parce que maintenant, en termes d'audience, c'est comparable. Il y a des youtubeurs qui font beaucoup plus de vues que des grosses émissions
télévisées.
Oui, ça en
fait même rêver certains, voilà, hein, parmi les médias traditionnels.
Ça fait jalouser peut-être certains aussi. Oui,
Florent Latrive.
C'est évidemment un média, et c'est même aujourd'hui un mass-média, donc au même titre que la télévision ou la radio. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 45 millions de Français qui, chaque mois, vont sur YouTube. 45 millions. C'est le deuxième site le plus visité derrière Google, qui appartient à la même entreprise par définition. Donc on est dans une pratique qui est une pratique totalement en fait de masse et qui concerne bien plus que les jeunes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer parfois, puisqu'évidemment sur YouTube, il n'y a pas que des youtubeurs, comme on le dit, ou des humoristes, etc., ou du tuto beauté, voilà. Il y a aussi de la musique, il y a aussi des chaînes de télé qui investissent, il y a tout ce qu'on peut imaginer en termes de création de vidéos. Mais par ailleurs, ça reste, et c'est bien aussi pour ça que c'est un endroit et un média qui fascine autant et qui intrigue autant, c'est qu'au-delà de la masse simple, c'est un média qui est massivement utilisé par les jeunes, bien plus que, pour le coup, la télévision. On rappelle que la télévision linéaire primaire, aujourd'hui, en 2018, l'âge moyen du téléspectateur, c'est 53 ans. Et en quelques années, on est passé de 48 ans à 53 ans. Donc ça vieillit extrêmement vite pour la télé linéaire. Aujourd'hui, l'application YouTube est l'application la plus vue sur les téléphones portables par les 15-24 ans. 85% des 15-24 ans regardent une fois par mois au moins l'application YouTube. Donc on est dans des chiffres qui sont colossaux et qui font qu'aujourd'hui, pour toute une partie de la population française, en fait, YouTube est quasiment le média principal.
C'est un moteur de recherche même pour les jeunes, Vincent Mathieu.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, YouTube a dépassé chez certains jeunes le moteur de recherche de Google comme outil de recherche. C'est-à-dire que ils vont pas aller taper des mots clés sur le moteur de recherche, ils vont aller le faire directement dans YouTube. Et donc, ça veut dire que c'est aussi de cette façon-là qu'ils vont s'informer. Et donc,
derrière, ou se désinformer.
Ou se désinformer, exactement. Il y a énormément de questions qui se posent par rapport à ça. Mais effectivement, c'est un média de référence comme n'importe quel Français. Il y a 10-15 ans, allumer la télé en rentrant chez lui.
Au départ, en tous les cas, il y a peut-être 8-9 ans, à la création de YouTube, on parlait beaucoup des YouTubeurs, et d'ailleurs encore récemment, avec ces vidéos humoristiques, et je citais d'ailleurs le nombre de vidéos humoristiques qui sont vues désormais, mais maintenant c'est des vidéos bien plus larges. On trouve quand même de tout, et vous avez fait des portraits de YouTubeurs dans votre livre, Vincent Manilev. C'est vrai que les choses se concentrent, ou se sont longtemps concentrées sur les YouTubeurs, avec le meilleur, alors je pense à Cyrus North, que d'ailleurs le journal de la philo a invité en mars dernier sur France Culture. Je pense à Norman, je pense à Marie Saint-Filtre. Et puis on trouve aussi le pire. Est-ce qu'on peut faire un portrait robot ou est-ce que vraiment on trouve de tout en termes de YouTubeurs?
Alors, c'est très compliqué parce que essayer de faire un portrait des youtubeurs, je pense, ça revient à essayer de faire un portrait de la société et de se dire comment est-ce qu'on peut résumer la société en quelques mots, parce qu'il y a autant de youtubeurs que de profils sociologiques, de métiers, à mon sens en tout cas sur YouTube. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas la même audience. Aujourd'hui encore, les trois grands genres, c'est l'humour, le gaming, qui est vraiment très très très, très fort aujourd'hui, ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire ce qui est parlé de mode, de maquillage. Avant, c'était beaucoup plus maquillage, maintenant, c'est plus une espèce de télé-réalité de vie quotidienne qui est filmée, qui est assez fascinante à observer. Mais je dirais que n'importe qui peut trouver n'importe quel contenu. Moi, j'ai déjà passé pas mal de temps à regarder des vidéos de youtubeurs chasseurs qui m'apprenaient à utiliser un pot pour canard. Voilà, c'est des vidéos de 15-20 minutes. Et on peut trouver absolument ce que on peut trouver des tutos, des gens spécialisés dans la remise en marche, dans la vaisselle, etc. Donc effectivement, c'est très très compliqué de dresser un portrait.
Il y a vraiment de tout,
exhaustif.
Effectivement. Alors cela dit, il y a n'importe qui peut faire des vidéos, vous le disiez, Vincent Manilev, et ensuite, on trouve absolument de tout dans les profils des youtubeurs, de fait, par définition, certains en même temps deviennent des stars et pas d'autres, parce qu'il y a une différence de qualité, nécessairement, ou qu'est-ce qui fait que certains dépassent les 13 millions d'abonnés et pas d'autres?
Et un seul mot, c'est l'algorithme. Bon, déjà, non, il y a quand même le talent, qui est quand même assez important.
Là aussi, comme partout.
Mais ce qu'il faut savoir, que le talent ne suffit pas forcément. On peut être extrêmement talentueux et faire toute sa carrière sur YouTube avec 1000, 2000 abonnés et ne pas décoller. Parce que ça ne correspond pas forcément à ce que YouTube veut montrer. C'est-à-dire que YouTube va montrer, faciliter la visibilité de contenus qui correspondent à ses idéaux et à une certaine mercantilité. Parce que il faut plaire aux annonceurs, parce que YouTube se rémunère en plaçant des publicités devant les
vidéos. C'est la question que tous les journalistes posent et qui énerve les youtubeurs, c'est comment ils vivent, combien ils gagnent.
YouTube place des publicités qui sont payées par les annonceurs devant les vidéos. Et YouTube, ce qu'ils ont envie, c'est que les annonceurs se sentent à l'aise et qu'ils aient des contenus facilement monétisables, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, c'est des contenus humour qui sont assez inoffensifs, des contenus beauté, les marques vont adorer ce type de contenu-là. Alors que des contenus un peu plus différents, qui parlent d'histoire, d'actualité, sur des sujets peut-être parfois un peu sensibles, qui parlent de terroristes, par exemple, les annonceurs, ils vont moins aimer ça, et donc les gens qui parlent de ça vont être moins visibles sur YouTube.
Florent Latré.
Et là, on retombe sur la difficulté, la spécificité de ce média qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que c'est un algorithme pour beaucoup qui choisit en fait ce qui est montré ou pas. Le rédacteur en chef est un algorithme. Quand vous avez terminé une vidéo, souvent il y a des rebonds qui sont proposés, d'autres vidéos, c'est l'algorithme qui choisit, et l'algorithme, il n'est pas, on ne peut pas l'opposer, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est une recette qui est choisie uniquement par Google, en fonction de critères qui sont commerciaux, mais pas seulement, je le dis parce qu'il y a eu des tas de cas où des choses se sont retrouvées très visibles, exposées aux enfants notamment, alors que c'était vraiment pas pour les enfants, et d'ailleurs il y a eu des problèmes avec la justice, donc là on se doute bien que c'était pas pour des raisons commerciales, c'est juste qu'ils avaient pas fait leur boulot. Mais il y a donc le côté boîte noire de l'algorithme est une vraie question sur la manière dont ce média fonctionne d'ailleurs aujourd'hui, et dont certains sujets remontent ou pas. Sur la question du talent, je précisais parce que c'est assez, il y a l'algorithme, mais le talent, je pense, fait pour beaucoup en l'occurrence, et reste quand même un facteur très important de pour faire émerger ou pas des vidéos. Et je pense qu'on voit ceux qui aujourd'hui ont d'une très forte longévité, que ce soit les Norman, les Cyprien, qui sont vraiment la première
génération
à avoir investi comme ça YouTube. On voit bien que par à la fois l'évolution de la façon dont ils écrivent, leur professionnalisation grandissante, la façon dont ils s'étendent dans d'autres domaines aussi, dont ils sont capables de sortir de YouTube parfois pour faire qui du stand-up,
je pense, sortir de la planète YouTube, pour voilà, reprendre ce que je disais
de se moquer d'eux-mêmes comme dans les séries télé, etc. On voit bien qu'il y a là vraiment des talents en émergence qui ont vocation à irriguer partout dans la culture.
Vincent Manilev.
Oui, je suis d'accord. Après, j'ajouterais peut-être que il y avait aussi l'importance d'être arrivé en premier aussi, parce que c'était à une époque où il y avait assez peu de contenu encore à se partager, donc le gâteau était assez gros.
Il y a moins de 10 ans, hein. J'aime bien votre usage du passé.
Oui, mais sur Internet, en 6 mois, il peut se passer plein de choses.
C'est l'équivalent d'un siècle.
Mais voilà, il y a cette importance là aussi, et le fait qu'ils ont pu grappiller des audiences énormes, et aujourd'hui, ils sont Norman, Cyprien, Squeezie, ils ont plus de 10 millions d'abonnés, mais je pense pas que parmi les nouveaux talents, il y en ait encore énormément qui arrivent à dépasser ce seuil-là. Je pense qu'effectivement, il reste peut-être un peu des miettes, en fait, pour les nouveaux créateurs, malheureusement.
Est-ce que les youtubeurs première génération, par exemple, ont créé leurs vidéos par rejet des formats traditionnels? Parce que il y a déjà eu une distinction très nette, voire un rejet, oui, entre les deux univers dès le départ.
Pas forcément. Je pense que c'est avant tout, surtout quand on parle de la première génération, c'était juste pour se faire marrer entre potes. Après, je pense, quand ils ont vu que c'était possible d'évoluer avec, de gagner une audience, je pense qu'ils ont évidemment compris que ça leur permettait de se passer des canaux d'émergence classiques comme la télévision, le fait de connaître des producteurs, de passer des castings, etc. et qu'ils pouvaient un peu court-circuiter ce schéma classique d'émergence dans le divertissement, à la télévision, à la radio. Après, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très affirmé. Tous on ne regarde pas la télévision. Il y a une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a un jeune youtubeur qui se filmait en train, il n'arrivait plus à allumer la télévision parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas regardé la télé, il galérait pendant 5-10 minutes à trouver le bon bouton, etc., et à mettre la télé. Et il disait et critiquait même en disant « Mais c'est dingue, on ne peut pas choisir le programme qu'on veut à un instant T, on peut arriver en retard sur un film. » Et il y a vraiment ce genre de décalage maintenant qui est irréversible. Et donc je pense qu'eux, ils ont compris que s'ils veulent faire du direct, ils ont la plateforme Twitch, s'ils veulent faire des vidéos, monter des grosses productions, ils ont les moyens de le faire et ils le font sur YouTube. Je ne pense pas que la télé soit devenue même une problématique. Je pense que c'est peut-être juste pour faire plaisir à leurs parents quand ils passent à la télé maintenant.
Quelle est l'histoire des relations entre YouTube et les médias, on va les appeler traditionnels? Indifférence, mépris, sentiment d'infériorité de part et d'autre ou de supériorité. Qu'est-ce que vous raconteriez, Vincent Manilev?
Il y a deux exemples très précis, et on l'entendait dans l'extrait en début d'émission. Il y a l'interview de Natou chez Laurent Ruquier, qui est la plus grosse youtubeuse française et qui fait de l'humour. Et elle, en fait, il ne comprenait pas face à elle ce que ça voulait dire, une vue, un clic. Il y avait un vrai complet décalage, comme si la mesure d'audience sur YouTube n'avait pas de valeur par rapport à la mesure d'une audience à la télévision, quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Et cette interview a vraiment marqué beaucoup de youtubeurs, a été assez mal vécue par les gros vidéastes qui ont été un peu vaccinés par ça par la suite. Quand ils y allaient, c'était uniquement pour faire la promo de livres, c'est-à-dire d'objets culturels qui sortaient de leur cadre de publication habituelle. Il y avait ça, et il y avait aussi une forme de un peu de moquerie vis-à-vis des fans de youtubeurs quand il y a eu les premiers gros salons de youtubeurs en France, notamment la Vidéo City Paris, c'était en 2015 si je me trompe pas la première, où là il y avait des équipes de télévision qui allaient filmer des fans en larmes, en train de crier face à des gens que le public habituel de la télévision ne connaissait pas du tout. Et je pense que en fait c'est des choses qu'on retrouve vis-à-vis peut-être des premiers boys band, même de vieux groupes comme les Beatles, ou si on regarde des archives de l'INA, on voit des jeunes filles crier en pleurs avec peut-être des gens à la télévision devant leur écran qui ne comprenaient pas cette mode-là. Et donc au début, effectivement, c'était très très compliqué, mais je trouve que par la suite, ça a un peu évolué parce que notamment les médias ont compris qu'ils avaient tout intérêt à aller sur ces plateformes.
Et on a vu beaucoup de youtubeurs sur les plateaux télé recrutés par des chaînes, Canal+, M6, TF1, C8, avec des idées d'aller-retour, ils ont disparu. Puis maintenant, les chaînes et la radio s'y met, donc Florent Latrive, réinvestissent différemment. Qu'est-ce qui intéresse France Culture dans le modèle YouTube?
Ce qui intéresse France Culture, c'est ce qui intéresse tous les médias. C'est d'abord la première relation vis-à-vis de YouTube et des nouvelles écritures numériques en général, c'est l'incompréhension. Ça a toujours, on se souvient de c'était hier, les blogueurs face à la presse écrite, où il y avait une véritable incompréhension. En fait, ce qui se passe, c'est que passé cette incompréhension, on en revient à l'essentiel, c'est que dans les univers médiatiques, les usages changent, les habitudes changent, et donc les écritures changent. Et évidemment, tout ce qui se passe, le bouillonnement qu'il va y avoir sur YouTube, mais aussi sur des formats de vidéo Facebook, mais aussi sur des formats qu'on va voir sur Twitch, effectivement, qui est une plateforme qui, à l'origine, servait à montrer des parties de jeux vidéo en direct et qui devient aujourd'hui plus largement une plateforme investie pour faire des formes de vidéos, notamment pour certains médias. En fait, à chaque fois, on se pose la question de comment on s'adresse aux gens aujourd'hui, avec quelles recettes, comment on arrive à faire passer les messages qui nous intéressent. Donc à France Culture, ce qui nous intéresse, c'est évidemment que par rapport à la mission qui est la nôtre, c'est de parler en tant que service public à tout le monde de la culture, des idées, de la création. Alors évidemment, si on ne s'adresse qu'à des gens qui sont vieillissants ou aux générations qui nous connaissent déjà, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est aussi d'être capable de porter cette mission auprès des publics plus jeunes qui sont habitués à d'autres écritures, d'autres narrations. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, France Culture, on regarde, pour prendre YouTube, on regarde beaucoup les youtubeurs des savoirs, c'est-à-dire ceux qui parlent de science, comme Dirty Biology, Léo Grasset, Manon Bril en histoire, Cyrus Etta Bene, Cyrus North qui a été cité en philosophie, etc., qui évidemment ont une manière, eux, totalement personnelle et totalement décomplexée de faire passer des savoirs, mais avec des exigences qui sont très fortes. Et évidemment, pour nous, ça nous intéresse de voir comment on peut apprendre à reproduire ça pour s'adresser à des publics qui sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui.
Vincent Manilev.
Oui, je trouve que c'est très important de voir ces youtubeurs, ces nouvelles figures d'Internet comme des médiateurs, entre guillemets, entre un public qui a des usages complètement différents et un savoir qui est essentiel et qui est de plus en plus difficile à diffuser, étant donné que maintenant, les jeunes, ils vont s'informer parfois uniquement via Snapchat, via YouTube, on le disait, en cherchant des mots pour voir des vidéos d'actualité qui sont pas toujours forcément exactes. Et donc de se dire qu'il y a un chemin à parcourir de la part des médias entre guillemets plus classiques pour aller justement chercher ce public-là et faire une mission, en l'occurrence de France Culture, de service public et de permettre à chacun et au plus grand nombre d'accéder à cette culture-là, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit une vraie différence, et notamment parce que je pense que les YouTube dont on vient de parler, des passeurs un peu de savoir qu'on dit un peu vulgarisateurs, ça a permis aussi de voir que sur YouTube, c'était pas que des sketchs dans sa chambre, c'était pas que des tutos beauté. Et je pense que ça a permis de...
Même si pendant un temps, ça a été vrai.
Ça a été en tout cas les contenus les plus visibles, et ils restent toujours très importants. Mais je pense que voilà, la mise en valeur de ces gens-là, et notamment via des festivals comme le Frame Festival en ce moment, ça permet vraiment de les établir comme des références et un peu des passeurs de connaissances entre des grands médias et un public très...
Un dernier mot, Florent.
Oui, on peut même aller plus loin et se dire qu'aujourd'hui, finalement, YouTube a été... a fait partie de l'écosystème médiatique et des écritures. Nous, à France Culture, c'est très régulier qu'à l'antenne, des youtubeurs viennent participer à des tables rondes. Dans l'émission La méthode scientifique de Nicolas Martin, c'est clair qu'on voit régulièrement Léo Grasset, alias Dirty Biology, qui passe pour commenter l'actualité scientifique au même titre que des experts ou d'autres journalistes. Et après, au quotidien, dans un projet comme Culture Prime, qui est le projet de vidéo, notamment sur Facebook, mais aussi sur YouTube, qu'on porte avec nos partenaires de l'audiovisuel public, France Télé, l'INA, France Média Monde, etc. Évidemment, les écritures qu'on utilise pour faire de la vidéo, raconter des histoires de science, des histoires historiques, des histoires d'idées, sont des écritures qui sont totalement empruntées au code de YouTube ou des vidéos courtes sur Facebook.
Merci à tous les deux, Vincent Manilev et Florent Latrive. Alors, le Frames Web Video Festival, c'est aujourd'hui et demain à Avignon. Plus d'informations sur le site, framesfestival.fr. À cette occasion, une série d'enquêtes sur les risques du métier de youtubeur est en ligne sur la plateforme France Télé Slash. Et pour ceux que ça intéresse, Télérama prolonge le festival à Paris avec une soirée 100% youtubeur. Ça sera le vendredi 11 octobre à 20h à la Maison de la Poésie. Toutes ces informations seront sur notre page La Fabrique Médiatique, sur notre site franceculture.fr. Merci à tous les deux.
Merci.